cet heureux mécontentement que de désirer. Et malheureuse satisfaction que de voir son désir satisfait.
C'est très difficile de mesurer la confusion.
Je me fâche, refâche et contrefâche pour le plaisir de fâcherie me cause.
La confusion.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Salon de Musique, une émission d'écoute qui nous embarque chaque mois dans le salon d'un invité, musicien ou simple auditeur de musique de son. En janvier, avec Lucien, on était plongé dans l'univers polymorphe d'Olivier, un des membres de Data, cette médiathèque qui a ouvert il y a quelque temps rue des Bons Enfants et qui vous propose de découvrir, de louer, voire même de télécharger des fichiers audio de musique innovante ou à redécouvrir, peut-être même des vieilles musiques que vous ne connaissez pas encore. Ce mois-ci, en compagnie de Virgile, nous allons nous laisser guider par le choix sonore d'Eric M. Salut Eric.
Salut.
Et salut Virgile.
Et salut Caroline.
Eric M, que je pense vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc il y a beaucoup de qualificatifs, bruitiste, sculpteur de vinyle, DJ, compositeur de musique électro-acoustique, qui a commencé par le rock et les arts plastiques, et puis qui aujourd'hui continue une carrière, on va dire, très diverse, très variée, très riche, qui va de la vidéo à la composition, du travail solo, à du travail collectif, avec des vidéastes, avec des metteurs en scène, des chorégraphes, bref. On s'y perd un peu dans la vie actuelle d'Eric M. En tout cas, on va avoir l'occasion de le retrouver très prochainement à Marseille. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais je crois que Virgile, tu connais aussi un petit peu mieux que moi, Eric.
On est copains quoi, depuis un moment.
Buvez des canons ensemble, ça rapproche.
Après, ça regarde pas trop peut-être les auditeurs quoi, ou l'intérêt de l'émission.
Non, mais j'imagine que peut-être que c'est vous avez des points communs dans le travail quoi. Toi aussi, tu viens du milieu des arts plastiques, guitariste rock, plongé dans un univers aussi un petit peu électroacoustique. Enfin, il y a des chemins, il y a comme ça des choses qui vous croisent et qui vous rapprochent.
Il me semble qu'on est aussi de la même génération et on fait partie de plein de gens aussi qui partagent à leur manière un univers ou un, je sais pas, rapport au monde quoi, ou à l'oreille en tout cas. Donc il y a des ponts quoi.
Donc là pour le salon, donc l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement que l'invité nous embarque, nous invite un peu dans son univers sonore. Donc là, c'est pas tout à fait un salon dans lequel on s'embarque avec Eric, mais un ordinateur.
Ouais, en fait, c'est mon salon de voyage, quoi. J'ai fait une sélection de différentes choses que j'écoute en voyage, dans le train, dans l'avion, pendant les différents voyages.
Et... Tu écoutes toujours du son ?
Non. Enfin, toujours, j'essaye de... En fait, je travaille pas mal pendant les tournées parce que ça me permet de gagner du temps, tout simplement. Parce que les temps de transport sont énormes, quoi. Donc, en général, à l'hôtel, effectivement, je bosse directement avec mon ordinateur, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est la continuité du studio à la maison. Et de voilà, donc je suis en permanence avec ça. Mais c'est vrai que pour décompresser un minimum, ouais, j'écoute des choses, mais qui en général sont assez loin de ce que je fabrique. C'est plutôt des choses qui sont de l'ordre affectif, quoi. Et donc, ce qu'il y a dans l'ordinateur, en général, c'est plutôt des choses qui viennent d'assez loin pour moi au niveau musical et qui sont vraiment dans la sphère de l'affectif, quoi. Voilà. Donc là, il y a différentes choses. Il y a des évidemment, on va pas tout écouter, mais j'ai essayé de faire une sélection qui permette de pouvoir faire des ponts entre différents types musicaux et voilà.
T'as une bibliothèque de combien de titres, tu sais ?
Je sais pas vraiment, en fait. Je sais pas trop. C'est clair que ça aurait été beaucoup plus simple si on avait vraiment fait un salon d'écoute à la maison, chez moi. Ou au fil des discussions, je permets de pouvoir prendre tel disque et les placer, et puis d'aller beaucoup plus vite, en tout cas dans ce rapport-là. Là, vu qu'on est dans quelque chose d'assez compact, du coup, j'ai fait une petite sélection par rapport à ça, quoi. Voilà.
D'accord, t'as triché.
Un petit peu.
C'est vrai que ce serait pas mal, peut-être. On devrait instaurer ça. J'avais jamais pensé. Tu m'y fais penser là, maintenant, tout de suite, quoi. On aurait pu venir chez toi avec un couple de micros d'ambiance, une petite mixette, ton lecteur CD qui rentre dans la mixette. On aurait enregistré l'émission en buvant un verre.
Ouais, parce que ça se passe.
En même temps, c'est pas mal, quoi.
Assez souvent comme ça, en tout cas, quand il y a des gens qui viennent à la maison, soit pour des soirées ou vraiment pour faire écouter leur travail. Souvent, ça rebondit très vite, quoi. Que ce soit avec la discographie ou avec la littérature ou avec les arts plastiques, ça permet de faire plein de ponts très rapides
avec l'affectif, en fait.
Complètement.
Alors, dans ta sélection, il y a eu un départ.
Ouais, il y a un départ. Je vais vous faire écouter un morceau En fait, c'est un morceau très précis, c'est un live des Cure qui date de 79, qui était sur une cassette qui était sortie, c'était uniquement sorti sur la face B d'une cassette qui s'appelait Concert. Et ce que j'aime beaucoup dans ce morceau-là, c'est l'atmosphère qu'il y a dans cet enregistrement-là, et parce que ça m'amène directement au premier concert que j'ai vu dans les années 80, qui n'était pas spécifiquement de ce groupe-là. Mais c'est l'ambiance qu'il y a dans la salle, le type de son, et ça me ramène à des ambiances, à des odeurs, à des histoires évidemment personnelles avec des amis.
Tu avais des Doc Martens coquets à l'époque ?
Non, parce que moi j'étais plutôt dans un trip cold wave, quoi, enfin vraiment musique.
Donc tu avais les Creepers, quoi ?
Même pas, non, même pas, c'était merde. Plutôt grosse basket, cheveux en l'air, etc. Quoi. Et c'était vraiment le départ, en fait, moi, de ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Quoi. Ça a été tous ces groupes-là. Et surtout l'ambiance qu'il y avait dans ces salles-là. Quoi. Donc je peux vous envoyer quelque chose.
Allez, Eric, donc en face à son petit ordinateur, tout blanc.
C'est parti.
Thank you.
The Cure, donc dans un espèce de hall de gare. Eric M, donc, qui a choisi de commencer ce salon de musique par nous faire écouter une espèce de vieillerie enregistrée depuis les toilettes.
Ouais. Ouais, ça me ramène vraiment à une période spécifique et j'ai vraiment cherché ce morceau pendant longtemps parce que c'est quelque chose qui a souvent on peut écouter de la musique puis ça vous touche pas pour différentes raisons, mais il y a toujours un feedback, il y a quelque chose qui revient en permanence. Ça arrive souvent au cinéma, il y a un film qui vous a pas touché, mais en fait il revient en permanence. Et ce morceau-là particulièrement, j'ai mis beaucoup de temps avant de savoir vraiment ce qui m'intéressait là-dedans. Et j'aime bien en fait le rapport acoustique qui est vraiment très sale avec les techniques d'enregistrement de cette époque-là. Donc on est vraiment fin des années 70, début des années 80. Le rapport au public par rapport à ce qui se passe sur le plateau, on est dans un morceau qui est extrêmement lent et des gens qui sont au bar, qui sont dans une discussion. C'est un rapport qui est complètement différent avec ce que j'ai l'habitude de vivre, où en général les gens sont plutôt assis dans des fauteuils à écouter religieusement une pièce ou regarder un concert. Et c'est ce type d'énergie qui existe encore, je pense, mais dans ce type de lieu, quoi. Voilà.
C'est bêtement les salles de concert rock, quoi.
Ouais, de base, ouais, qui sent la bière, ouais. Avec les fauteuils qui volent comme ils volaient dans les années 60.
Et là, on sent le Nord quand même.
Ouais, ben oui, oui.
Même évidemment. Dans le son, on sent le Nord. C'est un son de salle qu'on n'entendra jamais à Marseille, quoi.
Ben ça, je sais pas trop, mais.
Enfin, y avait la MJC quand même.
Ouais, il y avait Mirabeau, mais qui n'avait pas du tout la même acoustique. Mais j'ai pu venir à quelques soirées au cabaret aléatoire. Oui, il y a des soirées, ouais. C'était Berlin complet, quoi. Enfin, rien que le lieu, ce genre de choses, c'était des choses dans lesquelles j'ai vraiment baigné, quoi. Mmh. Voilà.
On continue la visite de ton ordinateur.
Allez.
De ta bibliothèque iTunes.
Ouais, on va passer... à quoi on va passer? On va passer sur quelque chose que j'écoute beaucoup en ce moment. Voilà. Ça s'appelle Delec. L'album, c'est Désir. C'est un mélange de... C'est du rap mélangé avec... Il y a DJ Steel qui joue dedans, qui est un DJ qui est très noise. Et c'est quelque chose qui se rapproche d'un peu Disposable Heroes of Hypocrisy, qui est un groupe fin 80, début 90. Et c'est une tendance de rap que j'aime beaucoup. J'en vois ça.
Battles, perceived battles, only held to sell albums, propagate stereotypes. sights that bleed at us, our own doubters. But I remain devout scholars, still the forefathers. If the risk was forced on us, define honors. If we all breathe disease lies, define the MC if all these spits is weak lines. Who searches culture for dollars? The fool or the scholar? We all poet or white collar. Who searches culture for dollars? The fool or the scholar? We all poet or white collar. Who searches culture for dollars? The fool or the scholar? We all poet or white collar. Who searches culture for dollars? The fool or the scholar? We all poet or white collar. And if my written words slurred, then my speech correct. Keep my meaning in further, test your intellect. If you remember hip-hop, with enough respect. Dead verse spoken with broken dialect. Spoken word held meaning, hostile acts provoke. Four metaphors, created urban folklore, never meant for. These upper echelon orders that bought and stripped morals from art that's gift for us. At heart, I'm strict purist. Spit thoughts for porous. 5-6 Honduran, sights set on own ruin. Rugged cadence, meant to capture essence. Ancestors' wrath festers under surface, a buttered sentence. Who churches culture for dollars? The fool or the scholar? We all poet or white collar. Who churches culture for dollars? The fool or the scholar? We all poet or white collar. Who churches culture for dollars? The fool or the scholar? We all poet or white collar. Who churches culture for dollars? The fool or the scholar? We all poet or white collar.
Alors Eric, c'est du rap que tu voulais nous faire écouter.
Ouais. Je fais coupe dans les morceaux parce que dans les salons de musique, en tout cas dans le salon de musique chez moi, j'ai plutôt tendance à faire écouter les choses assez rapidement plutôt que les écouter dans l'ensemble. Ouais. Et Delec, c'est un trio de New-Yorkais, un gars à la machine, un DJ et un MC. Et j'ai vu ce groupe-là la semaine dernière à Linz en Autriche. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans le rapport à la pression acoustique qu'il y avait dans la salle, la façon, les modes qu'ils utilisent. C'est-à-dire, on est vraiment dans des modes traditionnels, rythmiques et harmoniques, et ils travaillent beaucoup sur des couches, comme des groupes comme My Bloody Valentine ont pu le faire, ou d'autres, quoi.
Je suis pas sûre que l'ambiance dans ce concert ait été très différente de l'ambiance au concert de The Cure en 79.
Non, c'est assez proche, quoi. En tout cas, dans...
Côté un peu métallique.
En tout cas, pas forcément. En tout cas, acoustiquement, ça devait vraiment être différent parce que là, enfin, au niveau des systèmes qui sont utilisés aujourd'hui, là, le sub-bass travaille énormément. Fin des années 80, début des années 80, je pense que les subs étaient assez loin quand même. On n'est pas du tout dans le même rapport.
Non, mais là où l'ambiance devait être à peu près identique, je pense qu'elle a raison, Caroline, quoi. C'est ce qu'on ressent tout de suite à la musique, quoi. Le chanteur, là, c'est du rap. Et pour un chanteur du rap, il est plutôt dans la caractéristique un petit peu du chanteur expiatoire rock et non pas de la revendication hip-hop, quoi. Là, il y a un truc très rock quand même.
Je l'entends comme ça, de toute façon. J'entends quelque chose de... C'est ce qui est dit en général au niveau des textes, c'est des choses qui sont beaucoup plus personnelles que le fait de revendiquer une communauté ou ce genre de choses.
Et qui implique, moi, je trouve, une manière de chanter et même des timbres, quoi.
Ouais, mais ce qui me plaît dedans, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment en marge par rapport au rap et au mouvement hip-hop. Et que j'aime bien ce coin-là, enfin j'aime bien les bordures en fait, toutes les ouais, les côtés par rapport aux grosses machines commerciales, ouais. Par rapport, oui, enfin j'ai pas mal d'amis avec qui j'ai fait de la musique, du rock, ce genre de choses, qui, dès qu'on commence à parler de rap, ils sont systématiquement dans la caricature de ce qu'on peut entendre, ce qu'on n'aime pas. Moi, j'aime bien ça, quoi. Par exemple, j'aime bien l'écouter du R&B. Pour moi, le meilleur endroit pour écouter du R&B à Marseille, c'est la nuit à Notre-Dame-de-la-Garde, à 2h du matin. Parce qu'ils ont un dispositif au niveau des voitures qui c'est fait clair, que c'est là que ça marche, quoi. Et je ne vais pas spécialement en boîte pour aller écouter ce genre de choses, mais c'est clair que un samedi ou un vendredi soir sur ce parking là-haut, écouter ça avec le son
avec
qu'il y a là-dedans,
avec la vue sur le.
Ouais, il y a tout un trip en plus qui est très côte ouest, quoi, ouais. Américaine, mais version marseillaise, quoi.
Il manque l'écran de cinéma.
Mais il y est en fait, c'est la ville, le décor, il est vraiment là, et on retrouve tous les codes qu'on retrouve sur pas mal de pochettes de disques de rap, de groupes de Marseille qui sont là et qui écoutent du Snoop Doggy Dogg ou ce genre de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toutes ces voitures qui sont c'est des voitures tuning, qui ont un système de son absolument incroyable, qui écoutent tous des choses censées être différentes, mais elles sont toutes au même tempo. Donc quand on est au centre du parking, il y a vraiment un brouhaha absolument incroyable, et je trouve que Delec fait bien le mix entre toutes ces choses-là. J'aime bien ce rapport-là. J'aime bien ça.
Moi, c'est curieux parce qu'en écoutant, ça me fait penser à Closer de Joy Division, en fait.
Ah ouais.
Bon, là c'est complètement rap, quoi. Ouais, Closer, ouais. C'est, enfin, Joy Division, c'est complètement rock.
Ouais.
Mais je trouve que l'esprit est le même, le tempo est le même, le groove va chercher au même endroit, quoi.
Ouais, c'est quelque chose de très pesant, quoi, ouais. Vraiment.
Pour l'instant, c'est très cohérent, Eric.
Donc je sais pas, je vais vous passer. Qu'est-ce que je vais vous mettre un morceau. C'est les Neubotten, c'est un groupe allemand. Moi, j'étais assez influencé, en tout cas dans mon imaginaire, par rapport à ces groupes-là. Premièrement, parce que géographiquement, je vivais à la frontière allemande pendant très longtemps. Et effectivement, en Allemagne, on a eu la possibilité de voir énormément de choses qu'on ne voyait pas forcément beaucoup en France. C'est-à-dire toute la culture du rock ou du punk anglais, en fait, passait systématiquement par ces clubs-là, qui étaient en Allemagne ou en Suisse allemandique. Et donc, ouais, bon, voilà, c'est toujours un rapport affectif avec ces musiques-là, quoi. Donc, je vais vous envoyer un morceau des Neubotten.
Chrysanthemum.
For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star.
Asteragon.
For you, I'd be a dandelion, a thousand flowerets in the sky, or just a drop in the ocean. Another reason to cut off an ear.
toujours dans le salon de musique en compagnie de Eric M, qui nous embarque dans un petit voyage à l'intérieur de son ordinateur et qui là nous a donc embarqué à la frontière, enfin plutôt en Allemagne, pas à la frontière, direct.
Ouais.
Neunbotten, ça.
Plutôt à Berlin, que Virgile connaît un petit peu pour y avoir vécu. Donc,
Bah justement, j'ai été étonné par le choix du morceau de Neunbotten que tu nous as proposé. Quoi.
Ouais, c'est un morceau, un des morceaux les plus doux qu'ils ont pu...
C'est peut-être la version pour enfants.
Ouais,
ouais, peut-être. Ouais, j'aime bien, entre autres, ce morceau-là, à l'époque où ils l'ont fait. Ça, c'est un album qui date début des années 90, 91, 92, je pense. Où, en tout cas, ce groupe-là, ayant vraiment travaillé sur scène avec... que ce soit des perceuses, comment on appelle ça,
différents, ouais, des disqueuses à métal,
des disqueuses, enfin tout ce qui vient de l'industrie en fait. Ils ont commencé leur premier local en fait. C'est un groupe berlinois déjà de Berlin Ouest.
Qui a été monté par Blixa Bargeld.
Voilà, FM & Night, et qui travaillait en fait, qui était dans une espèce de dérive complète du rock à ce moment-là, et qui travaillaient entre autres dans leur local de répétition. C'était sous le pont d'une autoroute où le plafond était 1m50, donc c'était des gars assez grands. Donc il y a quelques images de ça qui sont assez impressionnantes. Enfin, c'est tout ça, c'est une espèce de romantisme industriel qui me touche beaucoup, parce que la région d'où je viens, il y a vraiment ça. Enfin, on est vraiment, moi, je suis vraiment originaire d'un coin qui s'appelle Mulhouse. C'est un peu le Manchester français, quoi. Donc, c'est vraiment plein d'usines et ce genre de choses. Donc, il y a vraiment une affinité. Il y a une poésie, en tout cas industrielle, que je sens vraiment. Ce qui est clair qu'on n'a pas vraiment entendu dans ce morceau-là. Ce qui m'intéressait, en tout cas, dans ce morceau-là, c'est l'évolution qu'a eu ce groupe, partir sur des choses qui sont vraiment extrêmement bruyantes.
S'ils ont commencé quoi, en 86, 87, non ?
Ouais, vraiment début des années 80, quoi.
Carrément.
Et avec toute la vanne de la vague de la musique industrielle, c'est Tom Ringgristel, etc., Judy Doris. Et ce qui m'intéresse dans ce morceau-là, c'est effectivement, il y a toujours le rapport à la guitare qui est présent, mais traité de manière complètement différente, qui commence à se diluer complètement. Ils travaillent directement sur l'harmonique des cordes de guitare, et le rapport aux voix, la façon dont c'est traité, on commence à rentrer dans une matière beaucoup plus plastique, dans la façon de traiter la voix, c'est-à-dire elle n'est pas là simplement comme dans le but d'une poésie, mais c'est plastiquement, la façon dont les choses sont enregistrées, on entend vraiment les souffles, tous les bruits de la bouche, etc. Quoi.
Et à propos de guitare, enfin, il y a beaucoup de gens qui te connaissent sous ton activité électronique, on va dire. Mais tu connais bien la guitare quand même.
Ouais, j'ai pratiqué ça pendant une dizaine d'années, ouais, avec différentes formations. En fait, je suis venu à Marseille par rapport à ça, pour jouer avec un groupe de Marseille qui s'appelle Kiss the Free, à qui j'ai joué pendant 6 mois, et on a fait un album ensemble. Et ce qui est étonnant, c'est que sur ce disque-là, d'ailleurs, je ne joue pas du tout de guitare, je ne fais que des platines. Quoi. J'ai pratiqué cet instrument pendant pas mal d'années. Ouais.
Parce que là, tu nous fais écouter aussi des choses... Ouais, là, tu nous fais écouter ta part affective. Quoi, parce que tu disais... Tu disais la part affective de tes écoutes qui en même temps font partie de ton travail et de ton quotidien, que ce soit dans tes déplacements professionnels, dans l'avion, comme tu disais. Je pense que tout ça, c'est une nourriture aussi. C'est pas c'est toujours un pont avec une mémoire et des racines sensibles et personnelles, mais je pense que se souvenir, se rappeler ne serait-ce qu'à soi-même en permanence d'où on vient, ça fait toujours avancer aussi, quoi. Est-ce qu'on ne revient pas souvent, ou peut-être indéfiniment, aux mêmes choses, peut-être sous des angles différents, mais voilà.
Moi, en tout cas, le rapport que j'ai avec les différentes choses qu'on va écouter, c'est qu'avec le temps, il y a une analyse sur cette musique-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a influencé, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans. Par exemple, dans le rock, je sais que quand on commence un groupe de rock, quand on a 14-15 ans, la première chose, c'est de faire la même chose que ses idoles. Enfin, c'est une identification par rapport à ça. Et une fois sur une scène, avec une formation, on commence à jouer, j'étais effectivement beaucoup plus dans l'énergie, chose que j'ai retrouvée beaucoup plus tard dans un dispositif électronique. Mais il y a quelque chose qui m'attirait dans cette musique-là que j'arrivais pas du tout à définir. Je me suis rendu compte de ça à 24 ans. C'était vraiment le rapport affectif que j'avais directement avec cette musique et le côté mélancolique qu'il y avait là-dedans et qui est assez loin de ce que je fabrique actuellement, mais dans lequel il y a des bribes de toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des morceaux que j'écoute de temps en temps sont toujours... Il y a toujours des déclencheurs là-dedans, dans la façon dont les choses sont faites, sont construites, sont... c'est sur le mode de la composition, par exemple, ayant vraiment eu, étant complètement autodidacte, vraiment dans tout, par rapport au rock, quand j'ai commencé à partir sur des musiques un peu plus savantes, entre guillemets, quoi, en tout cas c'était vraiment classé là-dedans, toute la façon dont je fabriquais la musique était complètement sur ces modes-là, c'est-à-dire vraiment sur les formats 45 tours des années 50 et 60, c'est-à-dire 3 minutes 45 avec un couplet, un refrain, et j'avais beau essayer de faire d'autres choses, une musique qui me semblait être plus proche de moi en utilisant des musiques préexistantes. Par rapport à la guitare, quand je jouais de la guitare, j'avais systématiquement en repère, en feedback, des choses que j'écoutais. Les influences étaient vraiment là, que j'arrivais pas à passer. Et le fait d'utiliser des musiques, c'est-à-dire pas du tout celle-là, mais de la musique populaire, de la musique contemporaine, ou ce genre de choses, et essayer de construire quelque chose d'après cette matière-là, m'a permis d'être beaucoup plus touché par rapport à ce que je faisais sous ce mode-là que par rapport au fait de jouer avec une guitare.
En fait, tu veux... Est-ce que... parce que j'avais une question en tête aussi, c'est qu'est-ce qui t'a finalement amené aux machines? Et là, j'étais en train de me dire, finalement, t'es allé vers les machines parce que l'instrument te suffisait pas. Ou bien t'étais avec l'instrument porté sur des références desquelles t'arrivais pas à te dépêtrer et que les machines l'empilage qu'on peut faire avec de la musique préexistante ou des sons préexistants, t'as permis toi d'exprimer ce que tu n'y arrivais pas à faire avec un instrument ou pas ?
C'était ça ? Ouais, c'est un peu ça, s'est fait de manière un peu empirique, hein, ouais. Parce que je pensais pas à ça du tout. C'était plutôt de l'expérimentation à la maison avec le vieux Revox de mon père. C'était de la bande, des cassettes, ou ce genre de choses. Mais ce que je trouvais fascinant là-dedans, c'était le fait d'utiliser des choses qui existaient déjà et puis. Et le fait de les transposer dans un autre cadre permettait de fabriquer quelque chose qui m'était beaucoup plus proche que de le sortir directement des deux, trois accords que je connaissais sur une guitare et d'essayer de faire quelque chose avec. C'est vraiment, ça a été vraiment un déclencheur, quoi.
Et ce qui est très impressionnant chez toi quand on te voit en concert, c'est... impressionnant, mais c'est peut-être pas ce qui est plus intéressant, mais en tout cas très plaisant, c'est de voir l'énergie physique avec laquelle tu as investi dans la manipulation de tes machines, quelles qu'elles soient. Et je pense que même un sourd penserait que tu joues d'un instrument et que tu n'es pas en train de manipuler un objet électronique.
Ouais. Mais c'est le rapport au corps, il est assez particulier. Je me suis rendu compte de ça au premier concert que j'ai fait dans un groupe de rock, c'est que c'était le besoin de bouger déjà. Premièrement, en passant à la musique électronique, j'ai travaillé pendant longtemps assis, quoi. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui me manquait. C'était une énergie, c'était le rapport au corps. Et donc, je me suis mis debout et j'ai commencé à travailler pieds nus déjà. Et du coup, il y a une verticalité qui se faisait. Et puis, la façon de travailler, d'engager ce qu'on avait sous les doigts, c'est-à-dire un vinyle, d'essayer de le jouer ou de l'interpréter comme si on le faisait sur le moment. Mais l'action était complètement différente.
Peut-être on va continuer...
Allez.
Dans les écoutes,
c'est parti. Thank you. Stravinsky, le sac du printemps.
Eric a beaucoup de mal à parler sur cette musique. Un espèce de grand respect pour le maître et puis un grand respect que tu as aussi pour la musique de manière générale. Tu as du mal, même si tu tritures à partir de musique en direct, tu as du mal à parler dessus.
Ouais, on n'est pas dans le même rapport, quoi.
On n'est pas à taratata, quoi, merde.
Ouais.
Parle pas sur Travis.
Ouais, ou même sur autre chose. Enfin, en tout cas, vu qu'on est dans une écoute, c'est important de. C'est un peu en rapport avec le premier morceau qu'on a écouté avant des Cure, où effectivement les gens sont dans une autre écoute, qui sont plutôt dans un rapport. C'est pas le même rapport d'écoute du tout, vraiment pas.
Quand tu composes, est-ce que justement la notion d'écoute est très importante pour toi? Et est-ce que tu penses à l'auditeur quand il va être lui plongé dans l'écoute de ton travail, à te dire j'ai envie de lui donner, de l'embarquer dans telle image ou dans telle vision ou sur telle matière ou dans telle réflexion?
Non, pas vraiment. Pendant pas mal de temps, effectivement, je travaillais vraiment dans un rapport à l'image, du coup, qui était une image acoustique, quoi, mais le fait de donner des choses. Et puis, avec le temps, et en travaillant énormément en improvisation, j'ai essayé d'essayer d'ouvrir ça de telle manière à laisser le maximum de place aux gens et créer de l'accident, en fait, c'est-à-dire ne pas du tout de maîtriser ce que je fais dans un geste musical, mais de laisser la place complète à l'auditeur, quoi. Ouais, vraiment.
En tout cas, le Sacre du printemps, c'est quand même une œuvre emblématique dont beaucoup de gens qui font de la musique aujourd'hui se réfèrent ou pourraient se référer. Il me semble parce que c'est une musique qui a été faite à l'époque où l'électronique n'existait pas et qui est le pur fruit d'une liberté d'imaginaire. Et dans la mesure où Stravinsky, c'est un compositeur qui s'est émancipé de tous les gestes de la musique pour en recréer d'autres, c'est-à-dire d'un point de vue un petit peu technique, qui ne s'est jamais contenté d'écrire des thèmes ou d'enfiler des thèmes les uns après les autres sur des métriques qui étaient identiques. Moi, je ne l'ai pas vu, mais... Je connais quelqu'un qui connaît bien la partition, qui m'en a parlé, qui m'a dit c'est impressionnant de voir que chaque mesure n'a pas la même métrique. Et en fait, chaque phrase est une idée en soi, musicale. Mmh. Et ne pas l'inscrire dans la même métrique, ça veut dire ne pas... chaque phrase correspond à son propre cadre. Et ça, c'est assez proche, finalement, d'une manière après autre, mais au niveau du résultat sonore... Quand on pense l'accident, quand on pense le collage, quand on pense la superposition, les couches, etc. quoi.
Ouais, pour moi c'est assez proche de. J'ai découvert ça assez tard en fait. Hein. J'ai découvert ça à travers la danse en fait. Et ça me ramène beaucoup à mon premier disque solo qui s'appelle Zygosis, qui fonctionne sur évidemment pas sur le même mode de fabrication. Mais à l'intérieur du sacre, il y a la façon dont les choses sont faites, les différents éléments. Je le comprends très 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 bien, ce qui est complètement différent par rapport à du bac, par exemple, où c'est quelque chose qui est très très loin de moi. Par rapport au sacre, c'est quelque chose qui est intuitif, quoi, qui fonctionne. Il y a un rapport, une façon de penser qui est assez proche d'un compositeur qui travaille sur des machines. Sur les thèmes qui sont répétés de manière assez courte et de la façon dont les choses évoluent, passer d'un bloc à un autre et des différentes images effectivement qu'il essaye de placer là-dedans avec les différents thèmes qui sont proposés, quoi.
Musique qui a également évidemment été composée aussi pour de la danse.
Exactement, exactement.
À propos de danse, Eric, tu travailles un peu avec la danse?
Je travaille.
Oui, je travaille un peu avec la danse depuis 4 ans, 5 ans maintenant. J'ai beaucoup travaillé avec Mathilde Monnier sur différents spectacles. Et là, on fait une pause parce qu'on a vraiment bossé longtemps ensemble. Et actuellement, je travaille plus avec un poète qui s'appelle Christophe Fiat et un danseur qui s'appelle Rémi Héritier. Où on est dans une forme, on ne sait pas trop parce qu'on est en train de le fabriquer, où on ne veut pas être dans de la poésie sonore, pas être dans du théâtre. Et malgré tout, tout est basé sur le texte et on essaye de prendre nos trois univers et en tout cas nos trois langages et comment fabriquer quelque chose qui nous semble intéressant à nous au point où on en est, dans la présentation d'un texte avec un danseur, enfin un rapport au corps et un rapport à la musique, quoi. Et voilà, enfin bon, il y a plein de choses à dire.
Un des multiples projets d'Eric M, replongé dans le iTunes de son ordinateur.
Alors, tic-tic-tic, je vais vous mettre Albert Ayler. Albert Ayler.
Un grand sourire, donc, sur le visage d'Eric M. à l'écoute de cet extrait.
Ouais, j'aime vraiment bien, même si c'est musicalement, c'est vraiment très très loin de moi par rapport à ce qu'on a écouté avant, mais ce que j'aime là-dedans, c'est la façon dont les choses circulent au niveau des instruments, quoi. Milford Grave à la batterie, la façon dont il joue derrière un thème, on est dans le rapport de musique fondamentale, c'est-à-dire rythmique et harmonique, la façon dont les choses se placent.
Dans... Un petit côté bordélique.
Ouais, il y a un côté qui est bordélique et j'aime bien ça, quoi. J'aime bien le.
Il y a un flux surtout, quoi, permanent, ouais. Quoi.
Il y a l'énergie qui est dans cette musique là, j'aime beaucoup.
Ça me fait penser à de l'eau toujours, à de l'eau qui coule, quoi. Albert Ayler.
Albert Ayler, ouais. Ouais, qui a fini dans l'eau d'ailleurs, le pauvre, il y a très longtemps. Et je vais passer quelque chose qui me plaît beaucoup. Un groupe qui s'appelle Jazz X, qui date de 69. C'est une formation de Bernard Parmigiani, qui est de la même génération que Pierre Henry, Luc Ferrari, et qui mélange qui fait du traitement en temps réel. Je pense sur base de Revoque, je ne sais pas exactement comment ils travaillent là-dessus. Donc c'est une formation de jazz sur laquelle ils retravaillent en temps réel et ils balancent des sons, quoi, concrets ou alors directement de l'empreinte sonore. Quoi, ce qui se rapproche beaucoup plus de différents projets que j'ai pu faire avec des gens qui sont plutôt dans le domaine du jazz. Quoi.
C'est une composition récente ?
C'est de 69.
Des des sons de provenance extrêmement divers.
Il faut quand même que je commence.
Essayez de poursuivre aujourd'hui.
Bernard Parmigiani dans le salon de musique choisi par Eric M. Eric M. qu'on va retrouver, il est temps d'en parler maintenant je pense, le 9 février prochain à l'Alhambra, une soirée en hommage à Luc Ferrari, organisée par Grenouille en partenariat avec l'Alhambra. Eric, tu as rencontré Luc Ferrari, là on parle de lui parce qu'effectivement c'est la même génération que Bernard Parmigiani, c'est la même école de musique concrète et puis tu as eu cette affinité avec Luc dans les derniers moments de sa vie puisque tu l'as rencontré ici à Marseille et tu as composé, enfin vous avez créé ensemble une pièce.
Oui, on a travaillé.
Plusieurs, je sais pas.
On a fait une pièce qu'il avait d'abord travaillée. Historiquement, ça s'appelle Les Archives Sauvées des Eaux. Il y a une fuite chez lui sur ses bandes magnétiques qu'il avait passé tout simplement. Il a numérisé ça en CD. Il s'est dit qu'est-ce que je vais faire avec ça. Il était assez intéressé par le mouvement DJ au sens large, sans vraiment savoir avec qui travailler, quoi faire. Et puis là, il a proposé cette première pièce là. En Belgique, il y a 4 ans maintenant, avec DJ Olive, où il demandait au DJ de créer de l'altérité tout simplement sur ses pièces qu'il mixait avec 2 lecteurs CD qui passaient d'une pièce A, pièce B, pièce A, pièce B, etc. Et il a fait ça avec Otomo Yoshide à Tokyo, avec Martin Tetro à Chicago. Et puis quand il est venu à Marseille, avec Euphonia et Radio Grenouille,
oui, il était en résidence ici.
Voilà, avait fait cette résidence. Puis Luc m'a demandé de venir participer à cette pièce-là. Et puis en fait, c'était le début d'une histoire qui a duré pratiquement 3 ans. Quoi. On a travaillé, on a pas mal tourné justement sous ce mode-là des archives. On s'est assez bien entendu parce que Luc me disait que en fait, je mystifiais pas du tout le personnage. C'est-à-dire que je faisais C'est-à-dire que je ne le mettais pas dans une boîte, je faisais vraiment attention à ce qu'il faisait musicalement, et que lui, il était vraiment là, il attendait vraiment quelqu'un en face, enfin dans une, dans de la réponse, quoi. Et ce qui a fait que, du coup, il y a eu un questionnement par rapport à, au système qu'il utilisait, c'est-à-dire les lecteurs CD. Il voulait avoir un rapport d'improvisation par rapport à de la bande enregistrée, quoi, enfin par rapport à un lecteur CD, mais sans, jusqu'à présent, il n'avait pas d'interaction directe là-dessus. Donc le dispositif, on a changé ça, on lui a mis tout simplement un dispositif de DJ CD, quoi, et qui lui permettait de faire des boucles, aller à l'endroit, à l'envers, faire un minimum de scratch, ce genre de choses. Et puis en fait, cette pièce, elle a évolué dans le temps au fil des différents concerts, et avec le temps, on s'est dit, bon, ce serait bien qu'on fasse quelque chose de complètement nouveau, oui, pour nous deux, en tout cas dans ce rapport-là, où on est parti sur un système avec 4 platines CD, avec chacun nos sons dedans, et sur un mode complètement improvisé. Parce que dans les archives, Luc avait quand même un score, enfin une partition, simplement à dérouler, quoi, avec les différents mouvements à l'intérieur, que là, il n'y avait rien, quoi. On était nus, quoi, devant les sons, et il fallait y aller, quoi. Et on a présenté cette pièce-là qu'une seule fois ensemble, en fait, aux Instants Chavirés, en février 2005, l'année dernière, dans laquelle était prévu aussi qu'il joue du piano, parce que Luc a fait d'ailleurs un enregistrement avec Noélac Choté il y a quelques années, où il jouait du piano et de la bande et du lecteur CD. Là, l'idée, c'était de revenir un petit peu à ça. Et puis finalement, on a travaillé qu'avec ces 4 lecteurs CD, qu'on n'a pas pu continuer parce qu'il était tout simplement malade, et que j'ai pu rejouer par la suite avec Alvin Curran, qui est un compositeur de la même génération, américain, italien, ou avec Thomas Slane, qui est un improvisateur en électronique. Et le 9 février, donc à l'Alhambra, j'ai invité Jérôme Neutinger, qui est un musicien qui travaille avec de la bande magnétique, avec des Revox, donc qui lui va créer de l'altérité sur les CD. Alors j'aurai 2 lecteurs CD, un CD avec la musique de Luc, l'autre CD avec ma musique, et on part en improvisation dans ces thèmes-là, quoi. Voilà.
Donc un travail évidemment différent de ce que tu faisais avec Luc.
Ce sera différent par rapport à l'interprétation de la personne qui est invitée. Après, au niveau de l'idée, j'essaye d'être dans un esprit assez dans l'esprit de Luc quand même, surtout ouais, par rapport au type de son, parce qu'ils sont vraiment caractéristiques, quoi. Il y a quand même beaucoup de paysages sonores, des voix, et donc on est quand même sous cette forme-là. On reconnaît relativement bien cet univers-là. Enfin, ça, c'est quand même l'idée de rester un peu là-dedans, mais en même temps d'ouvrir complètement tout le reste et de faire venir des différentes personnes pour travailler sur ce mode-là.
Je reviens un petit peu sur le souvenir de la résidence avec Luc. Quand tu avais travaillé avec lui, j'avais trouvé un rapport très très beau, quoi, qu'il y avait entre vous. C'est peut-être passé par le fait qu'il n'y ait pas eu de mystification. Luc avait très envie d'improviser. Il l'avait dit, quoi. C'est quelqu'un qui a jamais rien freiné dans sa vie pour ne pas faire les choses dont il avait envie, quoi. Mais l'improvisation, il l'avait jamais fait. Il avait comme un truc de petit garçon qui osait pas, alors que, enfin, au début, je trouvais, quoi. Aussi parce qu'il avait un petit peu envie de savoir comment ça marchait, quoi. Et donc je me souviens que tu lui avais expliqué, et donc il y avait comme un truc qui se retournait, quoi, parce qu'on peut attendre de la part de quelqu'un comme Luc de recevoir, quoi. Et je pense que t'as reçu de toute manière, parce que c'est quelqu'un de généreux, mais je pense que tu lui as donné beaucoup aussi, quoi.
Ben, en fait, par rapport à ce qu'il avait envie de faire et de la façon dont c'était présenté là, c'était clair qu'il était complètement, il était figé dans son personnage historique, pratiquement, quoi, venant de la musique écrite, la musique concrète, ce genre de choses. Il a vu et il a très bien compris que les instruments électroniques qu'on utilise aujourd'hui, c'est la façon dont on utilise ces instruments aujourd'hui, c'est ce qu'ils auraient aimé faire, c'est ce qu'ils faisaient déjà dans les années 60, mais l'interprétation est différente, ou même dans les années 50.
Lorsqu'on a écouté tout à l'heure la pièce de Parmigiani, aujourd'hui c'est quelque chose qui peut se faire complètement en direct.
Ouais, complètement. Et donc il a vu le lien avec ça et avec ces technologies-là, et puis c'est quelque chose qu'on apprend relativement vite. À partir du moment où on a quand même un univers derrière, on peut très vite rentrer dans une composition, en tout cas dans une improvisation sur de la musique fixée par rapport à Ouais, par rapport à un lecteur CD ou un vinyle, comment poser ses sons et quoi faire avec ces choses-là, sortir du cadre simplement de l'auditeur, mais en ayant une action sur ces choses-là, quoi.
Alors toi, nouvelle génération dans les musiques électroacoustiques, tu as pu peut-être lui ouvrir des voix et des oreilles sur des nouvelles technologies comme ça, enfin en tout cas des outils que lui ne pratiquait pas ou moins. Toi, à l'inverse, de travailler avec un bonhomme comme Luc Ferrari, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça t'a...
Moi, ce que
le... Comment tu l'as vécu ?
Je l'ai vécu, déjà c'était quelque chose de... d'impressionnant pour moi, parce que la première pièce que j'ai entendue, enfin en tout cas dans un domaine de musique concrète, c'était presque rien. Et par rapport aux premières pièces qu'on a pu, enfin les premiers morceaux de rock qu'on a pu entendre, dans presque rien, je retrouve ça. C'est-à-dire l'intimité qu'il y a dans ce qui est dit, sous n'importe quelle forme. Dans presque rien, on entend Luc se promener dans la nature avec Brunhilde, sa femme, et qui font des commentaires sur les différents insectes qu'il voit. On entend des chiens au loin, il y a une chouette, il y a ce genre de choses. Et je trouve qu'il a réussi à catalyser, en tout cas dans cette pièce-là, un instant vraiment très fort, en tout cas dans une relation avec une personne et un rapport au vivant. Ça a marché tout de suite, quoi, la première fois que j'ai entendu ça. Donc après, rentrer effectivement dans un autre cadre, d'être plus dans un rapport d'improvisation avec Luc, on est complètement dans autre chose. Donc c'était quoi faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble là-dedans ? Qu'est-ce qui est intéressant de faire aujourd'hui entre deux générations de musiciens avec des sons qui peuvent venir de n'importe quelle époque, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'on est en train de fabriquer là, dans un siècle, il y a des gens qui pourront repartir exactement des mêmes sons que moi je fabrique, etc., etc. C'était quoi faire de pertinent, entre guillemets, entre nous deux dans ce contexte-là, quoi. Ouais. Mais c'était une aventure... c'était trop court, quoi. On s'est rencontrés un peu trop tard. Mais du coup, ça permet...
Vous avez abouti quand même à... T'as le sentiment d'avoir abouti ensemble à quelque chose, une création?
Ouais, ben après, ça n'a pas été assez consommé, quoi. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça. Le seul aboutissement physique qu'il y a de ça, c'est qu'on a fait un disque ensemble sur un label italien qui s'appelle Angry Records, où on a enregistré en fait un live dans une discothèque à Milan. C'est à la suite de ça d'ailleurs qu'on a, on s'est dit on va faire les proto-rythmiques, une nouvelle pièce, parce qu'on était dans un cadre qui était complètement différent des salons effectivement d'écoute, quoi, c'est-à-dire dans son fauteuil d'écouter une pièce électroacoustique. On était dans un domaine où les gens étaient là pour danser une heure après ce qu'on est à faire, et il y avait les projecteurs automatiques, les boules à facettes et les fumigènes.
Il devait être super content, lui, de ça.
Et on était dans un rapport frontal par rapport à ça, et que c'est clair que la partition qu'il avait sous les yeux, même s'il avait un instrumentarium qui avait changé, on était complètement dans autre chose. Il y avait un rapport physique, on était un peu obligé de se battre par rapport à ça. Et de ça est sorti un disque, et à la suite de ça, on a créé les proto-rythmiques, quoi.
Alors, je rappelle que toute la semaine sur Radio Grenouille, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir Luc Ferrari, puisqu'on diffuse un certain nombre de ses pièces à partir de lundi, donc de demain, jusqu'au 9 février. Et puis le 12 février, on diffuse, si vous ne pouvez pas être à l'Alhambra en direct, on diffusera donc le concert.
D'accord.
Ton concert, Eric, avec Jérôme, on le diffusera sur Radio Grenouille le 12 à 19h30.
Et juste préciser que l'Alhambra se trouve à Saint-Henri, dans le 16e arrondissement. On peut y accéder, je pense, facilement en bus, mais la voiture est préférable.
Alors, il y a toutes les infos sur le site de Radio Grenouille,
voilà.
www.grenouille888.org.
Et la soirée s'articulera autour de trois éléments, si je ne me trompe pas. Donc, le concert d'Eric avec Jérôme Nottinger, la diffusion de Presque Rien, dont nous parlait Eric à l'instant. Donc, c'est une occasion rare de venir écouter cette bande. Et la diffusion d'un film de Jacqueline Co. Donc, bon, c'est un petit peu la première à Marseille, quoi.
Du documentaire
sur Luc Ferrari, qui a été tourné...
Les quatre dernières années,
les quatre dernières années de sa vie, quoi.
Jacqueline Co, en fait, c'est la biographe attitré de Luc, qui a sorti une édition il y a 2 ans maintenant et qui a fait ce film-là l'année dernière.
Et je crois que les premiers tournages ont commencé pendant la résidence de Luc à Grenouille.
Ouais, entre autres. En tout cas, le film se termine... Se termine à Marseille.
D'accord.
Tu dois être dedans, j'imagine. Ouais.
Donc le documentaire d'accord. s'appelle Presque rien avec Luc Ferrari. Ça sera donc diffusé à l'Alhambra et c'est réalisation de Jacqueline Co et Olivier Pascal.
Exact. Merci Eric.
Merci.
On a fini. Un dernier morceau quand même, Eric, non ?
Allez, je vous passe un truc un peu fétiche pour moi qui est Negative Land. C'est un rapport entre un patient et son psychiatre, une patiente.
Yellow and black and
tender.
Yellow and black and rectangular.
Rectangular, yes. And what else?
Well, yellow and black and rectangular.
Rectangular, yes. What else?
Well, doctor, it has kind of black and yellow and black and
rectangular, yes.
It has kind of shapes inside.
Yellow, black, and shapes inside.
Oh, I see them everywhere.
What else?
It has kind of wedge shapes inside.
Yellow, black.
Black and yellow and...
And with...
Rectangular.
Wedge shapes inside.
Oh, I see them everywhere. Do you hear me?
There. Just lie back.
Black and...
Black and yellow with...
Everywhere. Do you hear me?
There, Mrs. Black.
Well, wedge shapes.
Mrs. Wedge.
Everywhere.
There. Back on the couch.
What does it mean?
Rectangular. Black and with wedge shapes inside.
Oh, I see them everywhere. Everywhere.
Just lie back on the couch.
What does it mean?
Yellow and with black shapes.
Wedge shapes inside.
Inside.
Oh, everywhere. Do you hear me?
There. Back on the couch.
What does it mean?
Mrs. Yellow. Back on the couch.
What does it mean? Am I losing my mind?
Just lie back on the couch.
What does it mean?
Just lie back.
Am I losing my mind?
There.
Everywhere.
Just lie back.
Do you hear me?
There, Mrs.
Everywhere. Do you hear me?
There.
Do you hear me?
Mrs.
Rectangular.
Mrs. Rectangular, yes.
Am I losing my mind?
What you have been seeing everywhere you look. Are those yellow and black signs used to indicate a fallout shelter in buildings?
So you see these signs too, Dr. Black?
Why, sure, Mrs. Rectangular.
Oh, well, I feel better already.
C'est la séance de psychanalyse qui part complètement en couille, quoi.
Dernière sélection d'Eric M. Donc dans le salon de musique, on discutait pendant l'écoute que justement du comment Eric travaille, quelles sources tu prends lors de tes concerts, et on disait que la parole finalement était une source importante dans ton travail et pas forcément la musique que tu connais en tout cas.
Ouais, exactement. Ouais, je peux prendre vraiment à... Tout dépend dans quel cadre on est, mais soit c'est vraiment de l'enregistrement acoustique, enfin vraiment micro dans la rue ou par rapport à des thèmes définis, ou alors ça vient de la radio ou de la télévision, enfin des médias en général, quoi. J'ai jamais fait de pièce politique ou critique, mais excepté sur le spectacle avec Christophe Fiat et Rémi Héritier, où ça va vraiment tourner autour de ça, de Guantanamo. Mais donc la musique est vraiment construite par rapport à ça, mais que je jouerais même pas, en fait. J'aurais vraiment un rapport, le rapport physique du musicien sans son instrument. C'est plutôt une installation sonore qui sera en place, dans lequel il y a des CD aléatoires qui tournent, et on est plus dans un rapport plastique, en tout cas au niveau de la mise en espace, quoi.
Tu laisses place au hasard, des rencontres.
Ouais, ce qui est important, c'est de, enfin en tout cas pour moi, c'est de, à travers des rencontres, c'est d'essayer de faire des choses qu'on n'a jamais faites, quoi. Enfin moi, le rapport au texte, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je sais que j'en suis très très loin, qu'il y a vraiment beaucoup de travail par rapport à ça. Et le rapport au corps aussi, sous un mode de performance ou autre, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc dans ce spectacle-là, j'ai vraiment essayé de m'arranger de telle manière à ce que la mise en scène soit un espace sonore et que les lumières aussi. Enfin, en général, quand je travaille sur un plateau, avant de faire la musique, je veux savoir où je suis, pourquoi je fais ça. Et là, ça donnait vraiment l'occasion de pouvoir, en tout cas, partir sur le musicien, enfin, en tout cas, qu'à l'étiquette du musicien, et sur le plateau physiquement. Après, qu'est-ce qu'on va faire, c'est autre chose, quoi.
À découvrir quand, tu sais, il y a déjà une date.
La première, c'est le 4 mai au Théâtre de la Bastille à Paris. Et après, c'est du 8 au 12.
Du 8 au 12.
Mais.
D'accord. Merci Eric. En attendant, pour ceux qui ne sont pas parisiens, vous pouvez rencontrer Eric M. donc à l'Alhambra le 9 février. À très bientôt, j'espère, sur les ondes 3-8.
À bientôt.
On pourrait
merci.
Peut-être, juste pour finir, donner ton site internet.
Oui.
Ça intéresse les gens.
Oui. Alors il y en a un, c'est www.ericm.com. Et il y en a un autre qui traite plus des arts plastiques, qui est au document d'artiste en un mot, .com, je crois. Voilà.
Merci Eric.
Merci.
Ciao à tous.
C'est heureux mécontentement que de désirer. Et malheureuse satisfaction que de voir son désir satisfait.
Il me c'est très difficile de mesurer la confusion.
Je me fâche, refâche et contrefâche pour le plaisir de fâcherie me cause.
La confusion.